vous est présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir Anne.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Emmanuel Macron veut faire vite pour éviter que la contestation sociale ne prenne de l'ampleur. Les ordonnances pour réformer le Code du travail sont donc désormais signées. Mise en scène soignée ce midi à l'Élysée, au cours de laquelle le chef de l'État a pris la parole. Nous l'entendrons. Alors que se prépare la manifestation des Insoumis demain, Sophie Delpont va nous expliquer comment la formation de Jean-Luc Mélenchon travaille pour amplifier la mobilisation. Au procès de la voiture de police incendiée à Paris en 2016, les réquisitions sont tombées. Jusqu'à 4 ans de prison requis contre 6 des 9 prévenus. Nous serons en direct avec Antoine Marette. 3 étudiants de Bordeaux qui avaient été rejetés en filière STAPS par tirage au sort obtiennent leur inscription à la fac. La justice administrative leur a donné raison. Explication à suivre de François-Pierre Noël. L'Union européenne salue le discours constructif de Theresa May à Florence. La première ministre britannique a préciser ses intentions par rapport au Brexit, va nous dire Antoine Gignot. Et puis l'enquête du journal de 18h, comment la France se prépare au terrorisme en mer. Enquête signée Mickaël Ropaz à la fin de ce journal. Les ordonnances sur la réforme du Code du travail ont donc été signées en direct et à la télévision. C'était à l'Élysée à la mi-journée. Scénarisation à l'américaine, déjà testée la semaine dernière pour les lois de moralisation de la vie politique. Emmanuel Macron a pris la plume, entouré de sa ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et du porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. Et au lendemain de la deuxième journée de mobilisation syndicale contre les ordonnances, le chef de l'État s'est permis de bien insister sur son action.
Les 5 ordonnances relatives à la réforme du droit du travail viennent d'être signées. Elles consacrent un engagement de campagne important et une réforme en profondeur inédite du marché du travail, indispensable à notre économie et notre société. Cette réforme, menée dans un temps record, jamais une réforme d'une telle ampleur n'a été faite depuis le début de la Ve République. Et jamais, a fortiori, une telle réforme n'a été faite en si peu de mois. Ce sont des dizaines d'heures de débats parlementaires, 80 environ au total, plus de 300 heures de concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux pour refonder la philosophie de notre droit de travail, son état d'esprit, avec des effets profondément structurants sur l'emploi, en particulier pour les plus jeunes et les moins qualifiés.
C'était Emmanuel Macron, le chef de l'État, sur BFM TV. Plus rien ne s'oppose à l'application des 5 ordonnances qui vont donc entrer en vigueur ces prochains jours. Plus rien, si ce n'est la contestation syndicale emmenée par la CGT et la France Insoumise. Nous allons y revenir. L'objectif du gouvernement, c'est de rassurer au maximum pour éviter que cette colère ne s'élargisse. Muriel Pénicaud a donc organisé une conférence de presse cet après-midi. La ministre du Travail qui promet la mise en place d'un comité d'experts pour évaluer l'impact de ses ordonnances. Elle a déjà nommé le syndicaliste Marcel Grignard, Jean-François Pilliard, ancien vice-président du MEDEF, et Sandrine Cazès, économiste à l'OCDE. Muriel Pénicaud qui promet également d'apporter des réponses aux routiers dans les jours qui viennent. En dépit des nombreuses heures de négociations avec les syndicats au cœur de l'été, la réforme du Code du travail ne fait toujours pas l'unanimité. Le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif, par exemple, mécontente toutes les organisations syndicales. La CGT, on marquait le pas, n'a pas à ce stade de nouvelles journées d'action. En revanche, la France Insoumise se prépare à mobiliser en nombre demain. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
La formation politique de Jean-Luc Mélenchon a mis tous les éléments en place pour réussir cette journée.
Pour cette journée test, la France Insoumise a mis plusieurs atouts de son côté. Réussir son pari, c'est-à-dire réunir des dizaines de milliers de personnes pour une démonstration de force politique. Au niveau logistique, le mouvement a affrété 131 cars, auxquels s'ajoutent une vingtaine de bus supplémentaires mis en place par des groupes d'appui locaux depuis une soixantaine de villes. Un dispositif permettant d'acheminer plus de 2800 militants depuis Brest, Nancy, Bordeaux ou encore Biarritz se réjouissent les organisateurs de la manifestation. 5 bus devraient monter depuis Clermont-Ferrand, 4 bus depuis Marseille. Des plateformes de covoiturage ont aussi été créées en parallèle. Plusieurs députés France Insoumise organisent dès ce soir des apéros citoyens pour mobiliser les troupes. Et depuis 15 jours, des ateliers de confection de pancartes tournent à plein régime au siège parisien du mouvement, avec parmi les mots d'ordre des messages tournant autour des fainéants et des cyniques, reprenant les propos d'Emmanuel Macron. Plusieurs orchestres devraient aussi converger converger vers Paris et animer la marche, précise l'organisation.
Et au niveau politique, la France insoumise a tenté d'élargir au maximum la mobilisation.
Mais depuis l'appel de Jean-Luc Mélenchon à déferler en mars, c'était fin août à Marseille, les porte-parole du mouvement n'ont eu de cesse de répéter que ce n'est pas la marche de Jean-Luc Mélenchon, mais celle de tous les opposants. D'abord accusé de jouer solo et de faire de la concurrence à la mobilisation de la CGT, la France insoumise a depuis obtenu quelques ralliements. Benoît Hamon, l'ancien candidat à la présidentielle, sera là, mais aussi Olivier Besancenot du NPA, une délégation du Parti communiste, mais pas sa direction, ainsi que des absents, à noter demain, le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Ils ne viendront pas marcher derrière la France insoumise. Les appuis politiques ne sont pas la priorité, répètent les porte-paroles du mouvement qui souhaitent avant tout mobiliser au-delà des partis, un appel aux gens, selon l'expression consacrée, et faire de cette manifestation la démonstration d'un mouvement de masse légitimé par la rue et seul capable de s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron.
Merci Sophie Delpont pour vos explications. La France n'est pas inquiète par un rapprochement entre Siemens et Alstom si les synergies recherchées ne sont pas obtenues au détriment de l'emploi. Déclaration du porte-parole du gouvernement Christophe Castaner. Les deux géants du ferroviaire pourraient annoncer leur alliance mardi prochain au lendemain des élections allemandes. Dans l'affaire de la voiture de police incendiée le 18 mai 2016 lors d'une manifestation contre la loi travail à Paris, les audiences sont en train de se terminer. Les plaidoiries de la défense ont commencé. 8 prévenus sur les 9 visés dans cette affaire sont présents à ce procès que vous suivez pour France Culture, Antoine Marette, au Palais de Justice de Paris. Bonsoir.
Bonsoir Anne.
Vous avez écouté tout à l'heure les réquisitions du procureur.
Oui, de lourdes peines requises, en particulier contre les deux principaux suspects. 4 ans de prison ferme et 1 an avec sursis contre Antonin Bernanos. Le jeune homme de 23 ans est poursuivi pour violence et dégradation sur la base d'un témoignage anonyme et de vidéos qui ne permettent pas de l'identifier formellement. Cet étudiant proche de l'ultra-gauche reconnaît avoir participé à la manifestation interdite, mais il conteste farouchement avoir porté le moindre coup contre le policier, ni avoir commis des dégradations, tout en refusant de les condamner. L'autre réquisition, très sévère, concerne le grand absent de ce procès. Joachim Landwehr est suspecté d'avoir lancé le fumigène dans le véhicule alors que 2 policiers se trouvaient encore dans l'habitacle. Il est donc jugé par contumace et le procureur réclame 8 ans de prison ferme. Pour les 6 autres prévenus, le parquet demande des peines allant de 12 mois avec sursis à 4 ans de prison ferme. Un réquisitoire très sévère donc. Ce procès est un procès d'incendiaires et de personnes qui ont commis des actes de violence. Il n'y a pas de complot, il n'y a que des faits, a affirmé le procureur. On en est donc maintenant aux plaidoiries de la défense qui vont bénéficier d'une prolongation mercredi matin, car ce procès fleuve a pris beaucoup de retard, notamment en raison de problèmes logistiques. La salle était trop petite le premier jour et quelques incidents causés par des militants anarchistes. On ne connaît pas encore la date du délibéré qui sera communiqué la semaine prochaine.
Merci Antoine Marette pour votre compte-rendu sur les réquisitions au procès de la voiture de police incendiée quai de Valmy, c'était en 2016 à Paris. L'affaire du tirage au sort pour entrer en filière STAPS à l'université rebondit. À Bordeaux, la justice administrative ordonne l'inscription de 3 étudiants qui n'avaient pas été acceptés dans cette filière sport à cause du tirage au sort, conséquence des dysfonctionnements du système APB pour admission post-bac. 3000 étudiants n'ont toujours pas trouvé de filière à cette heure. Bonsoir François-Pierre Noël.
Bonsoir.
Le gouvernement a promis de réformer cette procédure et de mettre fin au tirage au sort l'an prochain, mais pour l'heure donc, rien n'est réglé et 3 étudiants restés sur le carreau ont donc fait un référé auprès du tribunal administratif de Bordeaux il y a quelques semaines.
Tout le monde connaît le site internet très décrié, admission post-bac ou aussi appelé APB, ce dispositif où chaque jeune bachelier sélectionne un vœu pour son entrée à l'université. Et dans cette affaire, les 3 étudiants remplissaient tous les critères. Ils étaient bacheliers dans la région de l'université, ils habitaient dans le département et ils avaient sélectionné STAPS, une formation sportive en premier choix. Mais ils n'étaient pas les seuls. 1600 futurs étudiants avaient fait de même, 1600 jeunes bacheliers pour seulement 250 places. L'université de Bordeaux effectue donc un tirage au sort, comme le prévoit la circulaire du 27 avril dernier du ministère de l'Éducation nationale. C'est là où le tribunal pointe une irrégularité. Ce fameux tirage au sort sur admission post-bac n'a jamais été l'un des critères du code de l'éducation. La circulaire n'a pas légalement la même valeur qu'une loi ou un décret. De plus, ce texte n'a pas été signé par la ministre de l'Éducation de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, mais par le directeur général générale de l'enseignement supérieur, ce qui porte un doute supplémentaire sur la légalité réelle. Le tribunal a donc suspendu la décision de l'Université de Bordeaux et ordonné l'intégration des 3 étudiants dans la formation qu'ils souhaitaient. Une décision acceptée d'ailleurs par l'université, mais d'ores et déjà contestée par le ministère, qui a décidé de porter cette affaire, ce cas précis, devant le Conseil d'État. Sachant que par ailleurs, la justice est appelée à se prononcer sur le fond d'ici le mois de janvier prochain.
Merci François-Pierre Noël pour vos explications. C'est dans le cœur historique de l'Europe, à Florence, que Theresa May a précisé la manière dont elle envisage le Brexit. Les négociations reprennent lundi à Bruxelles sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et la première ministre britannique a donné des gages de sa bonne volonté cet après-midi. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Vous avez écouté dans le détail le discours de Theresa May. Elle propose à l'Union européenne une période de 2 ans après, une période de 2 ans de transition après le Brexit.
Oui, elle ne donne pas de chiffres, Theresa May, mais elle s'engage à solder les comptes. Elle paiera la part du Royaume-Uni dans les programmes européens et elle plaide pour une période de transition de 2 ans, 24 mois, pendant lesquels les Britanniques continueraient à avoir accès au marché unique. Une manière, dit-elle, de rassurer les investisseurs. Mais la principale nouveauté, la principale proposition pour tenter de débloquer les négociations concerne les expatriés. Les 3 millions de ressortissants européens qui vivent au Royaume-Uni, tout comme les Britanniques de l'étranger, n'auront pas la possibilité de se tourner vers les instances européennes en cas de litige, explique Theresa May, mais les tribunaux du Royaume-Uni prendront en compte les règles du droit européen. Pas question non plus d'essayer d'attirer les entreprises avec de la main-d'œuvre à bas prix, de faire du dumping social. Nous maintiendrons, dit-elle, les plus hauts standards en matière d'emploi. Theresa May qui tente donc de rassurer et de séduire. En matière de sécurité, nous avons beaucoup à apporter, reprend la première ministre, qui met en avant l'expérience du Royaume-Uni en matière de diplomatie, l'efficacité des services secrets. Il est, dit-elle, vital que nous travaillions ensemble.
Merci Antoine Gignot pour votre compte-rendu. J'ajoute que Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit côté Union européenne à Bruxelles, Michel Barnier salue l'esprit constructif du discours de Theresa May. Toujours concernant Londres, l'autorité des transports retire le droit à Uber de faire circuler ses VTC, décision qui concerne 40 000 chauffeurs dans la capitale britannique. Le spécialiste américain des véhicules de transport avec chauffeur annonce son intention de faire appel. Et puis dans l'enquête sur l'attentat du métro de Londres il y a une semaine. Le jeune homme de 18 ans interpellé à Douvres samedi dernier a été inculpé. Il est accusé de tentative de meurtre et d'utilisation d'explosifs. 3 autres personnes sont toujours en détention dans cette affaire. Toujours concernant le terrorisme en Europe, 1 mois après les attentats en Catalogne, la garde civile espagnole a arrêté un homme de 24 ans. Ce Marocain vivait en Espagne. Il avait des liens étroits avec plusieurs membres de la cellule djihadiste responsable des attaques de Barcelone et de Cambrils. Le suspect leur aurait prêté ses documents d'identité pour acheter du peroxyde d'oxygène, un composant essentiel de l'explosif TATP. La Catalogne, qui vit toujours au rythme des tensions liées au référendum d'autodétermination du 1er octobre prochain, la situation est toujours crispée avec Madrid qui envoie des renforts de police pour empêcher la tenue de cette élection. 3000 à 4000 hommes environ sont en train d'être déployés selon les médias sur place. L'opération de mercredi dernier contre les organisateurs du scrutin a aussi provoqué un mouvement de colère chez les Catalans. Les hauts fonctionnaires du gouvernement autonome sont aujourd'hui libérés, mais l'esprit de révolte contre Madrid demeure, Gaëlle Joly.
Ils sont sortis du tribunal après 72 heures de garde à vue, le visage triomphant, le poing levé. Face à la centaine de manifestants, sous l'œil des caméras en costume, les 6 fonctionnaires, dont plusieurs directeurs de cabinet, tombent dans les bras de leurs proches. Pas de déclaration, mais sur le parvis, dans la foule, le jeune Enric ne peut retenir sa joie.
C'est un jour magnifique pour la libération des prisonniers politiques. La bataille continuera la prochaine semaine. Je crois que le premier jour d'octobre, avec le référendum, sera la culmination totale de la Catalogne. Le gouvernement espagnol, je ne l'écoute pas parce que c'est une dictature.
Si les fonctionnaires sont sortis libres, ils sont poursuivis pour désobéissance, préméditation et malversation. Mais peu importe, pour l'un des leaders du mouvement indépendantiste catalan, Jordi Cuixart, aucun doute, le référendum aura bien lieu.
La réponse du peuple catalan sera civique et paisible, et nous pourrons le voir ce week-end avec toutes les activités prévues en relation avec la défense de la démocratie et de l'état de droit en Catalogne.
Vu de Madrid, le référendum est toujours considéré comme illégal. Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs annoncé aujourd'hui l'envoi de renforts de forces de l'ordre dans toute la Catalogne.
Reportage signé de notre envoyé spécial en Catalogne, Gaël Joly. Kim Jong-jung est un fou qui va être mis à l'épreuve comme jamais. Le président américain Donald Trump a lancé une nouvelle attaque contre le chef d'État nord-coréen dans un tweet ce matin. Une escalade qui intervient quelques jours après son discours à l'ONU, au cours duquel il a qualifié le leader de Pyongyang d'homme fusée. Kim Jong-un n'est pas en reste et dit vouloir faire payer Donald Trump pour ses provocations à l'ONU. L'ONU, où en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, la Chine a une nouvelle fois appelé à l'apaisement, Dominique André.
Donald Trump et Kim Jong-un ont tous les deux de fortes personnalités, souligne depuis plusieurs jours la presse officielle chinoise, qui milite pour que cessent les provocations verbales des deux dirigeants et qui insiste surtout sur un point. Un président américain ne devrait pas parler comme ça. Aujourd'hui, c'est au tour des autorités chinoises de monter au créneau, faire preuve de retenue au lieu de se provoquer, a dit Liu Kang, le porte-parole des affaires étrangères. L'appel de la Chine intervient aussi après de nouvelles menaces des Nord-Coréens qui laissent entendre qu'il pourrait y avoir un essai de bombe H d'un niveau sans précédent, peut-être au-dessus du Pacifique. Face à la situation qu'elle juge sensible et complexe, les autorités chinoises tentent toujours de faire revenir tous les acteurs de la crise autour d'une table de discussion pour sortir de ce tête-à-tête Washington-Pyongyang. Pékin a proposé plusieurs fois sans succès un gel des programmes militaires nord-coréens en échange d'une suspension des exercices militaires conjoints des États-Unis et de la Corée du Sud. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre trop longtemps avant la mise en place d'un dialogue, disent les Chinois.
Correspondance à Pékin, signée Dominique André. L'enquête du journal de 18h ce vendredi, comment la France se prépare au terrorisme en mer. Et c'est avec vous, Michael Ropars. Bonsoir. Jusqu'ici, les risques terroristes étaient essentiellement sur terre ou dans les airs. Vous avez appris que des attentats ont aussi été déjoués en mer.
Et pour vous en convaincre, je suis allé à Brest rencontrer celui qui commande toute la zone maritime atlantique qui s'étend du Mont-Saint-Michel à la frontière espagnole. Ce préfet maritime s'appelle Emmanuel de Oliveira. Je lui ai demandé si des bateaux avaient déjà été ciblés par des terroristes. Écoutez ce qu'il m'a répondu.
Oui, il y a effectivement des accidents et des attentats qui ont été évités. Pardon, je ne peux pas en dire plus.
Voilà, c'est court mais clair. Il y a donc déjà eu des tentatives déjouées, d'où la nécessité de prévenir ce genre de menaces. Et pour cela, on a d'abord décidé de rouvrir des sémaphores. Certains d'entre eux avaient été mis en sommeil faute de moyens humains et on pourrait même en installer d'autres. Parallèlement, on intensifie la surveillance aérienne. Les missions des avions de la Marine nationale se sont accentuées, confirme Éric Janicot, le commandant de la base aéronavale de Lannebiwe, près de Lorient.
Aujourd'hui, on fait des vols quotidiens en Atlantique et en Méditerranée, soit au départ de Lorient, soit au départ de bases dans le Sud. Donc ça s'est clairement intensifié. Et puis surtout, on est passé d'une flottille qui mettait en œuvre 4 Falcon 50 marines à une flottille qui met en œuvre maintenant 8 Falcon 50 marines et qui a doublé son nombre d'équipages pour pouvoir mettre en œuvre ces avions.
Et sur les bateaux, les ferries, Michael, on contrôle les passagers de manière beaucoup plus fine qu'auparavant.
Oui, c'est ça. Depuis les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, par exemple, la Brittany Ferries, basée à Roscoff dans le Nord Finistère, fait remonter les informations qui concernent les passagers au ministère de l'Intérieur. Mais on enquête aussi sur les personnels embarqués sur ces bateaux. Ce criblage des personnels navigants est aussi réalisé chez Brittany Ferries, comme nous le précise Jean-Marc Rouet, le président de la compagnie maritime.
Ce criblage, c'est quoi? C'est en fait tout employeur de nos sociétés transport maritime a la possibilité de demander au ministère de l'Intérieur ce qu'on appelle un criblage ou une enquête administrative en amont de l'embauche ou même pour un salarié déjà dans l'entreprise si, pour des raisons, je dirais, propres à l'employeur, il considère que c'est nécessaire de faire cette demande.
Alors je précise que pour l'instant, personne n'a été écarté d'un emploi, mais ce service chargé de récupérer ces éléments ne fonctionne vraiment que depuis fin juillet, donc on n'a pas assez de recul. Et pour parer à d'éventuelles attaques terroristes en mer, les gendarmes maritimes, les fusiliers marins s'entraînent aussi sur des ferries en simulant des prises d'otages. Il y a déjà eu plusieurs exercices de ce genre en Manche et en Méditerranée.
Oui, car il est aussi prévu de développer les pelotons de sûreté maritime et portuaire.
Oui, ce qu'on appelle les PSMP. Alors il y en a déjà plusieurs en service en France. Les gendarmes maritimes vont pouvoir intervenir les premiers en cas d'attaque terroriste avant l'arrivée du GIGN, par exemple. Donc, théoriquement, on est prêt, mais il existe encore des difficultés à régler avec nos voisins avec lesquels on a des frontières maritimes. Il y a encore quelques mois, si un terroriste prenait en otage des passagers entre la France et la Grande-Bretagne, les militaires français ne pouvaient pas l'appréhender si le bateau était déjà dans les eaux territoriales britanniques. Alors, après un grand nombre de discussions, c'est désormais possible pour les navires sous pavillon français, mais toujours pas pour les bateaux sous pavillon britannique, donc il reste encore du chemin à faire.
Merci Michael Ropars. Comment la France se prépare au terrorisme en mer? Votre enquête est à lire en longueur sur notre site internet franceculture.fr. La météo avec un beau week-end en perspective. Ciel lumineux demain matin partout en France et les températures 15 à Lille et Cherbourg, 16 à Strasbourg et Paris, 18 à Lyon et Bordeaux, 21 à Marseille et jusqu'à 22 degrés à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau. À la technique, c'était Dali Yaha.